Radio Kapi. Au sommaire de ce journal de midi, ça passe ou ça ne casse pas pour les léopards de la RDC. Ils jouent en effet ce mercredi à 21h de Kinshasa contre les Taifa Stars de la Tanzanie pour le compte de la troisième journée à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Congolais sont optimistes pour la qualification en huitième de finale. Encore des tueries dans les territoires des Kwamout en province du Maïndombé. Le village Fadiaka a été attaqué hier mardi par les miliciens Mobondo en direction de plus en plus vers la frontière avec les territoires de Bagata au Kwilu. Plusieurs sources parlent d'une dizaine de morts et plusieurs maisons incendiées. L'invité de ce journal est Fortuna Maronga de l'OIM, l'Organisation internationale de migration. Il parle de la formation des acteurs de la sécurité et de la justice criminelle dans la lutte contre le trafic illicite des minerais et les violations des droits de l'homme dans les zones minières. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. CAN 2023, les léopards de la RDC jouent contre les Taifa Stars de la Tanzanie ce mercredi 24 janvier 2024. Un match comptant pour la troisième et dernière journée de la phase du groupe F à cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. À Kinshasa, les Congolais sont optimistes pour la qualification en huitième de finale. Détail de Vanessa Kongolo.
Dans le riz de Kinshasa ce mercredi, les drapeaux et autres insignes de la RDC sont perceptibles sur les motos, taxis et autres engins. La ville est sous la chaleur du match que les léopards vont livrer contre les Taifa Stars de la Tanzanie. Fabrice, la vingtaine révolue, est impatient.
Il a l'obligation de nous donner une meilleure réussite. On attend la victoire. Oui, avec l'équipe, avec les joueurs que nous avons, je pense que ça va marcher. On a de bons joueurs. On fera 2-0.
Paul, vêtu en varèse de léopard, foulard aux couleurs de la RDC à la main, donne son pronostic.
Le pronostic de tous les Congolais, aujourd'hui c'est notre finale. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous allons gagner par 2-0, nous allons nous qualifier.
Dans le groupe F, où le Maroc est déjà qualifié, la RDC n'a besoin que d'un match nul pour passer en huitième de finale. Les léopards doivent tout donner pour éviter une défaite face à la Tanzanie ce soir. RDC Tanzanie, coup d'envoi du match, 21h, heure de Kinshasa.
Direction Lubumbashi, où cette rencontre est attendue avec ferveur par le public qui espère voir enfin les léopards qui ont laissé une forte impression lors de la première sortie, gagner enfin son premier match et se qualifier pour le tour suivant. Des détails avec Jean Gandou.
La rencontre RDC-Tanzanie domine les conversations à différents endroits dans la ville de Lubumbashi. Et chacun y va de son propre pronostic.
J'ai l'assurance que nous allons gagner au regard des jeux que nous avons produits autrefois. Avec 3-0.
On doit battre les RDC. Hein. Les RDC, ça sera 1, Tanzanie, ça sera 2.
Je ne suis pas vraiment fan de foot, mais mon souhait, c'est que la RDC gagne. Je suis congolaise quand même.
Moi, personnellement, j'ai une forte conviction que la RDC va gagner 2-0.
Sur certaines artères, on peut voir les drapeaux de la RDC placés sur les véhicules de transport en commun et même devant certaines maisons commerciales. Des petits gadgets aux couleurs nationales sont vendus ça et là. D'autres personnes se promènent avec des drapelets à la main, comme pour démontrer qu'ils sont de cœur avec les léopards, appelés à tout faire pour prendre les déçus sur les Tanzaniens et se qualifier pour le second tour. Les footballs étant fédérateurs, disent-ils, cette victoire leur permettra d'oublier pendant un temps le petit tracas de la vie. Donc pour eux, les léopards n'ont pas droit à l'erreur et le sélectionneur national doit lancer des véritables commandos sur le terrain avec comme mission primordiale gagner le match. Les autres sont plutôt réservés à l'idée que cette CAN réserve bien des surprises où par moments les favoris ne sont pas toujours ceux qui s'imposent sur le terrain. Pour cela, la prudence doit être de mise. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
En Ituri, par contre, la Coupe d'Afrique des Nations est une opportunité d'affaires pour de nombreux habitants et opérateurs économiques, notamment des tenanciers des bars, des propriétaires des salles de cinéma et des jeunes entrepreneurs. Certains revendent des kits des entreprises de distribution d'images, d'autres achètent des abonnements pour la projection de matchs dans leurs maisons de commerce en vue d'attirer des clients. Le point dans ce reportage de Dieu merci Bokota.
La Coupe d'Afrique des Nations a suscité l'esprit d'entrepreneuriat chez de nombreux jeunes désœuvrés à Bounia. Certains circulent à longueur de la journée dans les quartiers avec des kits complets des entreprises de distribution d'images très sollicitées pendant cette compétition africaine. D'autres ont installé des points de vente dans les places publiques, ce qui leur permet de générer des revenus pour leur prise en charge. La CAN permet également aux propriétaires de cinéma de faire des bénéfices. Le nombre de clients a triplé, surtout pendant les matchs des Léopards de la RDC. Les salles de cinéma sont saturées. L'un d'eux exprime sa satisfaction.
Nous, on projette les matchs et la recette est bien. Avant, on vendait que 6 caisiers, mais depuis le début de la CAN, nous vendons jusqu'à 20.
Les tenanciers des bars, des boutiques et des restaurants font également la projection de matchs pour attirer la clientèle, ce qui leur permet de vendre de grandes quantités de leurs produits, notamment de boissons, comme le dit le responsable d'un hôtel à Bounia.
Depuis le début, on a constaté vraiment une très grande augmentation de ventes. Aujourd'hui, désormais, c'est chaque jour. Alors, pour nous, c'est vraiment avantageux parce qu'on profite un peu beaucoup plus.
Signalons que les compétitions internationales de football est un loisir qui attire de nombreux habitants, même dans les villages, et est devenu un commerce florissant pour certains entrepreneurs. Bounia, Diemersi Bokota, Radio Okapi.
Encore des tueries dans le territoire de Kwamout en province du Maïndombé. Des sources concordantes rapportent que le village Fadiaka a été attaqué hier mardi par les miliciens Mobondo qui se dirigent de plus en plus vers la partie du sud de ce territoire à la frontière avec le territoire de Bagata au Kwilu voisin. Selon les députés nationaux Gary Sakata et Guy Moussomo, cette nouvelle attaque a fait une dizaine de morts dont 3 femmes et plusieurs maisons incendiées. Aussi, un mouvement de déplacement massif de la population est observé. Ces Mobondo sont revenus des différents villages environnants pour faire jonction à Fadiaka, alors que les militaires s'étaient rendus dans une autre localité, indiquent ses élus. Ils demandent au gouvernement d'imposer la paix à Kwamout et à Bagata. Le point avec Irène Boma.
Ces miliciens Mobondo qui ont fait leur incursion mardi au village Fadiaka dans le territoire de Kwamout ont tué au moins 11 personnes. Ils ont à l'occasion incendié plusieurs maisons et écoles et ont saboté les biens de la population. Le député national élu de Kwamout, Guy Moussomo, qui livre ses bilans, rapporte qu'un grand nombre de déplacés est également signalé.
Vers 4h du matin, les miliciens Mobondo ont envahi le village Fadiaka. Ils ont tué pratiquement 11 personnes, dont 3 femmes. Ils étaient munis toujours de machettes, de haches et de fusils de calibre 12. C'est-à-dire que c'était le groupement des Mibondo qui sont venus dans des différents villages. Les villages Mitimitano, Zengwa, Kimbulu et Zambapoto. Ils sont allés massacrer la population de Fadiaka. Quand ils ont vu que les militaires ont quitté les lieux pour une opération ailleurs, c'est à ce moment-là qu'ils ont profité de venir commettre leur forfait.
Ces nombreux déplacés se dirigent plus vers la rive du territoire voisin de Bagata, affirme le professeur Gary Sakata. L'élu de ce coin du Kwilu qui livre les mêmes bilans invite le gouvernement à intervenir vite pour rétablir la paix. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, des violents combats ont repris ce mercredi matin dans la région de Mweso, en territoire de Masisi. Nos sources dans la région affirment que les groupes armés locaux et les FARDC ont repris la cité de Mweso depuis 7h30 et la population est en débandade. Des combats à l'arme lourde opposent depuis 3 jours les rebelles du M23 aux groupes armés locaux et les FARDC dans cette partie. Rappelons que les rebelles du M23 ont réoccupé Kichanga et Mweso depuis novembre dernier, alors que la force de l'EAC était encore déployée sur cet axe. Sifa Maguru pour plus de détails.
D'après des sources locales, la population de Mweso s'est réveillée sous une forte psychose ce mercredi à cause des affrontements violents dans la cité, mais aussi les localités autour de Mweso. Une partie de la population s'est dirigée vers un pati et d'autres ont trouvé refuge à l'hôpital général et à la paroisse de Mweso. Les notables de la région affirment que les FARDC et les groupes armés locaux ont surpris les rebelles ce matin et ont réussi à les déloger de la cité de Mweso. Les combats se poursuivraient dans la matinée, dans les localités de Mbohi, Kanyangohe et Bukama, quelques 2 à 4 kilomètres de la cité de Mweso. Les rebelles du M23 se seraient retirés dans les collines, tandis que leurs renforts en provenance de Kiloliro et Kichanga et Bwiza sont visibles sur les axes, affirment nos sources. Quelques tirs ont également été entendus à Kichanga ce matin, sans plus de détails. Goma Sifamaguru, Radio Okapi.
Et quelques heures après la publication des résultats des élections des conseillers communaux, plusieurs organisations féminines du Kasaï oriental déplorent la faible représentativité de la femme dans les instances de prise des décisions. La coordinatrice provinciale de la dynamique nationale des femmes candidates, Dina Fek, estime que les voix obtenues par les femmes ont servi aux différents partis et regroupements politiques dans l'atteinte du seuil de représentativité. Dr Nathalie Ndaya Chibaka s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Nous avons constaté qu'il y a une faible représentation de la femme. Peu de femmes sont élues. Et si nous comptons par rapport à ces trois échéances, nous trouvons que 13 femmes seulement sont élues sur autant de femmes qui avaient déposé leur candidature à la CENI dans les différents regroupements et partis politiques. Nous avons constaté que pendant ces échéances, il y avait autant de femmes qui s'étaient engagées et nous les avons vues même sur terrain en train de battre campagne. Mais hélas, par rapport aux résultats, nous trouvons que vraiment il y a une régression même par rapport à l'année 2018. Nous avons vu que les femmes étaient vraiment engagées. Nous avons vu que les électeurs ne juraient aussi que pour voter les femmes. Mais chose étonnante est qu'à la proclamation des résultats, les femmes ne sont pas élues. 13 femmes pour les échéances électorales, 2 au niveau national, 3 au niveau provincial et 8 au niveau des conseillers communaux. C'est vraiment déplorable de constater cette faible représentation des femmes. Et le premier problème que nous avons déjà déniché, c'est que dans la plupart des cas, nous avons vu que les femmes qui ont beaucoup mouillé les maillots n'ont contribué qu'à faire passer les hommes avec l'histoire de seuil des quotients électoraux.
Et puis les députés provinciaux élus du Kasaï central doivent siéger effectivement et non laisser la place aux suppléants. L'appel émane du conseil provincial des organisations non gouvernementales de développement à Kasaï oriental, Kasaï central. Partant de l'expérience législative passée qui a déçu plusieurs, le secrétaire exécutif provincial de cette plateforme souligne que la plupart des élus avaient laissé leur mandat aux suppléants qui n'ont pas représenté valablement la population. Écoutez à ce sujet Albert Kyungu, site des propos recueillis par François Kadima.
À voir tous ceux qui ont été élus, on se rend compte que la population s'est choisie des animateurs qu'il a trouvé dignes. À première vue, il y a beaucoup de têtes pensantes qui peuvent jouer un rôle utile à l'organe délibérant pour le bien de la population. Mais ce qui est toujours traditionnellement inquiétant, c'est le fait que les principaux élus, ils n'arrivent pas du tout à siéger. Généralement, on va laisser encore une fois de plus l'Assemblée provinciale entre les mains majoritairement des suppléants, dont la majorité ne sont toujours pas recrutés selon les règles de l'art. Des suppléants qui seront plutôt les supplétifs, qui ne seront pas du tout responsables des actes qu'ils auront posés. À chaque fois qu'il faudra prendre une position, une décision, poser un acte, il faudra faire des références, des référencements, attendre ceci. Nous risquons encore d'avoir des organes délibérants, pratiquement des figurants ou des caisses de résonance, où ça sera du passoir, où on va laisser le travail à côté, le travail des fonds serait laissé de côté. Ça, nous conseillons vraiment à ceux qui sont élus de remplir la mission pour laquelle ils ont été élus.
Au Congo central, l'impraticabilité de la route nationale numéro 16 qui part de Kisantu en territoire de Madimba jusqu'à Kimvula demeure un véritable frein pour le développement du territoire de Kimvula. Le médecin directeur de l'hôpital général de Kimvula qui l'affirme indique qu'à l'heure actuelle, cette route longue de 200 km s'est complètement détériorée avec les plus abondantes. Cette situation rend aussi difficile l'acheminement des médicaments de l'hôpital général de Kimvula. Ainsi, Dr Papi Kamesa demande au chef de l'État, Félix Tshisekedi, de placer la construction de la route nationale numéro 16 en ordre utile de ses priorités. Dr Papi Kamesa a été joint par Nana Plurich Mambou.
La grande difficulté de Kinshasa, c'est l'état de la route du côté territoire de Madimba. Il y a une énorme difficulté d'accès, ce qui fait que même pour acheminer les médicaments, c'est très difficile. La vie devient chère parce que pour acheminer même les vivres frais ou les autres denrées alimentaires, même certains articles, c'est pas toujours facile. Ça pose toujours des problèmes. Donc, ce qui entraîne directement la pauvreté aussi de la population. Il faut compter 150 $ de Kisantu à Kimvula. Pour le second mandat de son excellence, monsieur le président Félix Tshisekedi, nous qui sommes à Kimvula, nous qui travaillons à Kimvula, dans la route la nationale numéro 16, nous souhaiterions qu'on puisse refaire cette route-là pour permettre l'accessibilité facile. Parce que c'est 200 km de route, mais on y met 12 heures du temps, voire même des journées en route, surtout pour les gros mobiles. Or, c'est 200 km, une route de 4 heures, 6 heures du temps, s'il y a des bitumes.
Actualité internationale.
En dehors de nos frontières, la Tanzanie se prépare à des manifestations de l'opposition contre les réformes électorales. Il s'agit des premières manifestations depuis l'arrivée au pouvoir de la présidente Samia Suluhu Hassan en 2021, suite au décès de son prédécesseur John Magufuli. Ce dernier était taxé d'étouffer la dissidence après avoir interdit des rassemblements politiques. L'opposition tanzanienne a l'intention de donner de la voix contre les projets de loi électorale, la vie chère et les retards dans les réformes constitutionnelles. Et puis, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le président nigérien Bola Ahmed Tinubu à Abuja hier mardi, alors qu'il poursuivait sa tournée dans quatre pays africains. Blinken s'est rendu lundi au Cap-Vert et en Côte d'Ivoire, où il a présenté l'Amérique comme étant le principal allié économique et sécuritaire du continent en période de crise régionale et internationale.
L'invité.
Notre invité est Fortuna Baronga de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Il parle de la formation des acteurs de la sécurité et de la justice criminelle dans la lutte contre le trafic illicite de minerais et les violations des droits de l'homme dans les zones minières du 23 au 27 janvier 2024 à Bukavu. Fortuna Baronga s'entretient avec Jean Kassami.
Monsieur Fortuna, bonjour.
Bonjour.
L'OIM encore en activité aujourd'hui sur le commerce de minerais dans la province du Sud Kivu. C'est quoi la motivation majeure?
En fait, la motivation majeure pour la tenue de cette formation qui va durer 5 jours est justement de contribuer à un commerce responsable de minerais en province du Sud Kivu. Et pour y arriver, en fait, il a été prévu d'organiser une formation des acteurs de la sécurité et de la justice criminelle dans la lutte contre les trafics illicites de minerais et les violations des droits de l'homme dans les zones minières. Et cette formation a comme objectif spécifique de renforcer une coordination de tous les acteurs intervenant dans la chaîne pénale et aussi dans les zones minières pour la lutte contre le trafic illicite de minerais. Concrètement, ça passe comment? Il y a deux différents acteurs qui interviennent au niveau local et que la formation ici contribuera à donner une compréhension commune sur les rôles de tout un chacun. Parce que la lutte doit être synergique et que tous les acteurs qui interviennent soient à mesure de comprendre quel est le rôle de tout un chacun dans le développement d'un commerce responsable de minerais et aussi dans la lutte contre la fraude minière en province.
À votre avis, pourquoi le commerce de minerais n'est pas encore stabilisé malgré tous les efforts qui sont investis dedans par l'OIM et d'autres partenaires?
Au fait, le commerce en province ou à, il faut dire en RDC, c'est en fait une question d'effort et de politique que le gouvernement met en place à travers aussi ses partenaires. Et pour le camp du Sud Kivu, par exemple, c'est que le commerce de minerais a été émaillé par beaucoup de personnes qui ne sont pas autorisées, c'est-à-dire il a été constaté que le commerce de minerais à l'Est, et spécifiquement au Sud Kivu, finançait des conflits. Parce qu'il s'est posé un problème d'inadministration, d'un assainissement de ce secteur-là. Alors, le gouvernement a pris des engagements pour faire un assainissement du secteur minier, notamment par le renforcement des capacités de tous les intervenants, donc les services de l'administration de mines, les services techniques, et aussi de renforcer un mécanisme de sécurité dans les zones minières. Et donc, pour que les commerces responsables de minerais soit une réalité au site Kivu, il y a un certain nombre de choses à faire, notamment un renforcement de sécurité d'abord dans et autour des sites miniers et aussi un renforcement des capacités de tous les intervenants. D'abord dans la compréhension des rôles et missions de tout un chacun comme acteur qui doit contribuer au commerce responsable. Et c'est dans ce cadre-là que cet atelier est organisé pour renforcer les capacités de tous les acteurs dans la compréhension des rôles et missions de tout acteur qui intervient dans ces chaînes-là, en fait que le commerce soit vraiment non conflictuel en province du Sud Kivu.
L'une des cibles privilégiées par la formation, on voit la police des mines, pourquoi un accent particulier sur cette unité?
En fait, l'accent particulier sur cette unité, c'est que la police étant un service, la police est au plus bas niveau de la chaîne d'intervention. Donc, la police est avec la population au niveau local, dans les sites, la police ayant un rôle de protéger la population, donc la sécurité des personnes et de leurs biens, l'assainissement, et la salubrité et tout. Et donc, la police étant dans la chaîne pré-juridictionnelle, doit être suffisamment outillée pour appuyer, parce que la police, c'est un service d'appui, de suppléance à tous les autres services.
Cher invité, je vous dis merci.
C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.
Notre invité, Fortina Maronga de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, s'entretenait à Bukavu avec Jean Kassami. Fin de ce journal qui a été supervisé par Martin Sebou-Djangoué et coordonné par Élisée Tchikota. La mise en onde a été assurée par Tarsis Mukendi et Diedone Nyangasa. À vous, infiniment merci de l'avoir écouté.